Ce matin, je vais vous amener avec moi à Jérusalem. On va faire un petit voyage sympa. Ça, vous inquiétez pas, ça ne coûtera rien du tout. Hein, je vous amène avec moi. Donc, je vais vous amener avec moi et j'aimerais vous partager un texte de la parole de Dieu. Et avant de commencer, j'espère que ça marche. Voilà le guide touristique. Alors, je vous amène sur un parc archéologique que j'aime énormément. Et j'y étais il y a quelques mois avec ma fille Julie et on a pu fêter ses 13 ans. Et c'est un peu l'habitude que j'ai, c'est de fêter avec mes enfants leur 13e anniversaire et d'aller faire une bar mitzvah à la façon Fuster, un peu là-bas, en Israël. Et donc je vais vous montrer rapidement ce site archéologique et je vous dirai après pourquoi, bien sûr, j'ai choisi ce site-là. Alors c'est le centre Davidson, pour ceux qui connaissent. Alors là, il y a les marches, des marches qui me touchent énormément parce que c'est les marches que les gens, que les disciples prenaient lorsqu'ils montaient au temple à l'époque de Jésus. Donc c'est les marches, une fouille qui a permis de retrouver les marches originales qui datent de l'époque romaine. Donc voilà, ça c'était pareil, les marches pour monter au temple à l'époque. Une représentation de comment ça aurait pu être. Ah, ma fille Julie. Voilà quelques ruines. Moi, j'aime les pierres, en fait, ça me parle. Hein. Enfin, ce n'est pas les pierres qui me parlent. Hein. Et voilà ce magnifique site archéologique et une représentation du temple. Alors, vous dites, il est complètement farfelu, celui-ci. Pourquoi il nous parle de ça? Eh bien, je vais vous lire dans... Les Actes des Apôtres, un passage où Pierre et Jean montent au temple. Et ce qui me touche, c'est que finalement, le lieu où se passe ce miracle-là, c'est exactement les photos que je vous ai montrées, ou en tout cas quelque part tout près. Alors lorsque je préparais ce temps, je me suis rappelé qu'il y a un astronaute, James Irwin. Il était un des 12 astronautes à être parti sur la Lune. Et James Irwin était un chrétien convaincu. Et tout le monde bassinait, enfin, vous connaissez tous, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Or ça, on le connaît tous, mais on ne connaît pas la citation de James Irwin. Et James Irwin, il a dit ceci, et je trouve tellement beau, la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme a marché sur la Lune, mais c'est que Dieu a marché sur la Terre en la personne de Jésus. Et c'est pour ça que j'aime ce site archéologique, parce que quand je m'assois sur ces marches, je me rappelle que Jésus y a marché aussi plusieurs années avant. Alors, je vais partir dans le livre des Actes. Maintenant, on est toujours à Jérusalem. Alors, avant de commencer le récit, j'aimerais rappeler simplement qu'au chapitre précédent, juste avant le chapitre 2, c'est un jour très très important. C'est le jour où les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, remplis du Saint-Esprit, ils commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et juste avant, juste le chapitre 1, c'est Jésus qui dit, attendez, hop, c'est Jésus qui dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça m'a touché de me dire que nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui tient ses promesses, et ce que Jésus annonce quelques jours plus tôt se réalise. Et c'est ce jour de la Pentecôte où les disciples sont remplis du Saint-Esprit. On sait après que Pierre va faire des discours magnifiques. Il va y avoir pas seulement des discours, mais aussi des miracles. Je lis au chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, environ 3 heures de l'après-midi. Donc ils montent au temple par les marches que vous avez vues tout à l'heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alors ce récit commence par ce magnifique miracle. C'est vrai que quelque part on aurait bien aimé être là, voir cet homme boiteux de naissance. La parole de Dieu nous dit qu'il avait environ 40 ans lorsqu'il est là, devant la porte du temple. Je me faisais la réflexion, c'est pas le miracle qui m'émerveille, mais c'est plutôt celui qui en est l'auteur. Lorsque je préparais ce temps, je me disais, ce Dieu si grand, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui est finalement au-dessus de tout, même si moi je suis petit, insignifiant, eh bien ce Dieu prend soin de moi, ce Dieu prend soin de ma vie, prend soin de notre vie. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons ensemble, au groupe de maison, apprendre à écouter et que nous voulons suivre. Et c'est vrai que ce n'est pas le miracle qui nous émerveille, mais celui qui en est l'auteur. Tout le monde est étonné. Tout le monde se demande qu'est-ce qui est arrivé à cet homme. Et la parole de Dieu nous dit, mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de nos pères, de nos ancêtres qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Quel Dieu grand, quel Dieu infiniment grand nous avons. Si lui est infiniment grand, moi je suis infiniment petit. Si lui est le très haut, moi je suis le très bas. Mais ça n'empêche pas de s'intéresser à chacun de nous. C'est vrai que les hommes, aujourd'hui, la plupart qui ne connaissent pas Dieu ou qui le rejettent, ben c'est l'inverse pour eux. Dieu est infiniment petit et eux sont infiniment grands. Mais moi, je suis reconnaissant de connaître ce Dieu infiniment grand qui prend soin de moi. Alors, Pierre voyant cela dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, c'est à la fois en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alors nous croyons en Jésus. C'est cette foi-là, c'est cette foi agissante, c'est cette foi-là qui nous sauve, c'est cette foi-là qui nous guérit. Cette foi qui est efficace par Jésus, qui a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Lorsque je méditais ces paroles, il y a ce terme, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez fait mourir le prince de la vie. Jésus est le prince de la vie, mais nous savons aussi que Jésus est ressuscité. Et je me faisais la réflexion, c'est vrai qu'on a tendance à se réjouir que Jésus soit ressuscité le jour de Pâques. On se réjouit que Jésus est venu sur la terre le jour de Noël, et on se réjouit de la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais finalement, c'est tous les jours qu'on devrait se réjouir que Jésus est venu sur la terre, qu'il a marché parmi nous. C'est tous les jours qu'on devrait se rappeler et se réjouir que Jésus est ressuscité. Et c'est tous les jours aussi de notre vie qu'on devrait se rappeler que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Jésus est le Saint et le Juste, mais il est aussi l'auteur de la vie. Et il est bien réel, il règne, il est vivant, nous avons un Dieu vivant. Tout comme cette scène est bien réelle. Parce que cet homme était connu. Les gens qui voient cet homme boiteux, ils le connaissaient depuis enfant. Ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu adolescent, jeune adulte. Il était là, assis. Et le seul moyen de vivre ou de survivre, c'était de mendier, c'était de demander l'aumône. Il y a peut-être des gens comme ça autour de nous qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'une attention, qui ont besoin d'aide. Jésus est l'auteur de la vie. Jésus est le prince de la vie. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous voulons garder le cap sur Jésus tout au long de notre vie. Parce que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous remplit. C'est lui qui est notre essentiel dans notre groupe de maison, mais aussi dans nos familles. Et bien sûr, j'ose le croire, ici aussi à l'Escale. Alors, dernière partie, un peu plus longue, mais vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le Messie promis devait souffrir. Si Jésus est venu sur la terre, et je ne vais rien vous apprendre, mais moi ça me fait du bien de me le rappeler. Si Jésus est venu sur la terre, s'il a marché sur la terre, s'il a marché sur ses marches, c'est pour une seule chose. C'est par amour pour nous, il avait décidé de donner sa vie. Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie, pour mourir à notre place. Et j'aime cette parole dans l'évangile de Marc. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. J'aime aussi Jean 3,16, que vous connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ce que j'aime aussi, c'est le verset 17 qui suit. En effet, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais Jésus est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Et le seul moyen de sauver le monde, c'était de mourir à la croix. Alors j'aime cette pensée que Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé par avance, par la bouche de ses saints prophètes. Tout était annoncé. La Bible, depuis le début jusqu'à la fin, depuis le premier livre jusqu'au dernier, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est une révélation progressive. Jusqu'à la croix, où Jésus devait mourir pour chacun de nous. Pierre et Jean étaient toujours en train de discuter. Tandis que Pierre et Jean parlaient au temple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Là, ça se corse un peu, hein. Cependant, et c'est une bonne nouvelle, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Si j'étais à la place de Pierre, je me serais dit, mais là, il me tend une perche, en fait. Parce que en me posant cette question, Pierre n'a qu'à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ce que Pierre va faire. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et j'aime énormément le verset 12, c'est un verset qui m'accompagne depuis plusieurs années. Il n'y a de salut, et d'ailleurs je l'ai aussi mis à l'écran, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Autrement dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà, je vais arrêter là la lecture. Et je vous ai simplement remis ici les versets que je citais. Alors ça, c'était ma prière pour nous, pour notre groupe de maison, mais aussi pour vous tous. Seigneur, aide-nous à garder le cap sur toi, car tu es le prince de la vie et tu es notre plus grand bien. Tout à l'heure, Fred a parlé du bateau en papier. Je m'étais dit, on ne s'est même pas concerté les deux. Et j'avais mis cette image et je m'étais dit, voilà, un peu pour le mot de la fin. Il vaut mieux être dans une tempête avec Jésus que n'importe où ailleurs sans lui. Voilà. Merci pour votre attention et votre indulgence, parce que, comme la plupart, c'était aussi une première pour moi. Et ma prière, c'est que tous ceux qui sont rentrés ce matin ici à l'Escale, que vous puissiez ne pas repartir sans avoir reçu une parole de Dieu ou un encouragement. Parce que finalement, ce matin, c'est moi qui me tiens devant vous, mais dans le groupe de maison, on est tous à tourner, à nous encourager les uns les autres. Les autres auraient pu faire ça tout aussi bien, voire mieux que moi. Mais voilà, l'idée c'était qu'on aime s'encourager, on aime prier les uns pour les autres, et c'était ce que j'avais à cœur ce matin, c'était de tenter de vous encourager, et si ça a fonctionné, eh bien, gloire à Dieu. Voilà, le pari est réussi. Voilà, il y a encore des surprises, hein. Restez là, ne partez pas. Et merci en tout cas.